Plus jamais Masada ne tombera. Vers du poème de Isaac Lamdan, Masada, publié en 1927.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Située au sud-est de Jérusalem, en bordure de la mer Morte, la forteresse de Masada est un des lieux les plus impressionnants que le monde antique nous ait livré. Effectivement, la forteresse de Masada se situe sur un piton rocheux à environ 900 mètres par rapport au niveau de la mer. Et le palais a été construit dans les années 20 avant Jésus-Christ par le roi des Juifs Hérode le Grand. Il aimait de temps en temps se retirer dans cet endroit désert, mais où néanmoins il pouvait y avoir un peu de fraîcheur le soir et surtout des sources. Car il y avait effectivement des sources qui alimentaient le sommet du piton rocheux. Ce qui fait que dans le palais royal pouvaient se trouver des bains et on pouvait s'alimenter en eau. On pouvait d'ailleurs aussi, sur la surface au-dessus du piton rocheux, faire des cultures. Et il y avait de très grands entrepôts qui permettaient de mettre énormément de nourriture en réserve. Cette forteresse est véritablement entrée dans l'histoire avec la révolte juive de 66. En effet, en 66, les Juifs se révoltent contre l'autorité de Rome et après quelques mois d'incertitude où les Romains ont été quelque peu surpris par cette révolte, l'autorité romaine réussit à rétablir l'ordre, en particulier en prenant à nouveau Jérusalem et en détruisant le temple. Or, un groupe d'environ 1000 personnes, des enfants, des femmes, des soldats, mais des vieillards, se sont réfugiés au sommet de la forteresse de Masada. Et ils comptent bien y résister le plus de temps possible. Ainsi, pour que l'ordre soit totalement rétabli en Judée, l'empereur Vespasien donne l'ordre à la 10e légion, commandé par Flavius Silva, de mettre le siège devant le piton et de réduire les derniers résistants qui appartiennent à un groupe de zélotes, c'est-à-dire de nationalistes ultra. Pour se rendre compte de ce qu'est véritablement Masada, il faut écouter la description qu'en fait Flavius Joseph dans son grand livre « La guerre des Juifs ». Un rocher de grande circonférence et qui est élevé sur toute son étendue, est entouré de tous côtés par des ravins profonds dont les précipices s'élèvent à partir d'un fond que le regard ne peut atteindre, et inaccessible aux pieds de quelque être vivant que ce soit, sauf en deux points, où le rocher permet une ascension qui n'est d'ailleurs pas facile. De ces deux chemins, l'un part du lac Asphaltitis, à l'est, et l'autre par lequel l'accès est plus aisé, de l'ouest. On appelle le premier le serpent, pour marquer sa ressemblance avec ce reptile, à cause de son étroitesse et de ses multiples lacets. Il se brise, en effet, sur les pointes rocheuses des précipices, et revenant souvent sur lui-même, à chaque fois, il s'étire de nouveau et gagne péniblement du terrain. Vous l'avez compris, au travers de cette description de Flavius Joseph, Masada est un lieu extrêmement difficile à reprendre face à des personnes qui sont motivées pour le garder. Donc la 10e Légion s'installe autour du piton rocheux et met le siège. Seulement, ce qui permet aux zélotes de tenir, c'est qu'il y a un très grand nombre de nourriture qui a été stockée dans la forteresse, et puis que l'eau ne manque pas à cause de la présence de ces sources. Les photos aériennes du site ont permis aux archéologues d'ailleurs de retrouver l'emplacement des camps romains qui encerclaient la forteresse. Le siège dure pendant 3 ans, où les Romains ne parviennent pas véritablement à réduire la forteresse. Finalement, Flavius Silva décide de construire une rampe d'accès afin de monter des engins de siège et de d'espérer réduire la forteresse. Cette rampe d'accès est d'ailleurs tout à fait visible encore aujourd'hui. Elle est impressionnante. Et effectivement, elle permet, de manière assez abrupte d'ailleurs, de rejoindre les murs de la forteresse et d'y porter des machines de siège. C'est donc cela qui permet aux Romains, en 73, d'amener jusqu'au sommet de la forteresse des engins qui permettront de détruire les fortifications et de prendre d'assaut la forteresse. Le problème, c'est que au début du siège, quand les machines de siège sont mises à côté des remparts, le vent permet aux défenseurs d'installer des feux qui attaquent les machines de siège romaines. Et comme nous le décrit encore Flavius Joseph, c'est un retournement des vents qui permet aux Romains d'espérer entrer dans la forteresse parce que le vent est désormais favorable et n'attaque plus les machines de siège. Aussi, les Romains espèrent-ils entrer dans Massada. Les troupes romaines de la 10e Légion pénètrent effectivement dans la forteresse. Mais là, il faut revenir encore à la source qui nous est si précieuse pour connaître cet épisode, la guerre des Juifs de Flavius Joseph. Parce que dans son livre 7, celui qui nous décrit le siège de la forteresse, il nous explique que entrant dans la forteresse, les légionnaires ne trouvent plus que des corps sans vie. En effet, les zélotes ont décidé de se supprimer plutôt que de tomber vivants et d'être peut-être amenés à Rome pour un triomphe. Et donc, il y a eu un tirage au sort. Il semblerait que Flavius Joseph sache exactement ce qui s'est passé parce que quelques femmes et enfants, plutôt que de participer à ce massacre collectif, s'étaient cachés et ont pu survivre au suicide collectif du reste de la communauté zélote. Donc, pour les Juifs, la révolte est donc un échec et elle se termine par une espèce d'apocalypse de mort au travers de ce suicide collectif. Mais par la suite, à l'époque contemporaine, l'affaire Massada va connaître, je dirais, une rénovation et va devenir un élément de la mémoire juive et sioniste. D'abord, le livre de Flavius Joseph, « La guerre des Juifs », a été traduit en hébreu contemporain en 1882 et en 1920, offrant la possibilité aux Juifs de lire cette résistance acharnée de Massada. D'autre part, en 1927, le poète Isaac Lamdan a fait un grand poème intitulé tout simplement « Massada » et où il raconte l'épopée héroïque et fait de Massada finalement un lieu de résistance absolue des Juifs face à l'oppression. Et d'ailleurs, des groupes sionistes sont régulièrement installés durant le mandat britannique au sommet de la forteresse et y passent quelques semaines à lire Massada et à se souvenir de cette résistance qui est allée jusqu'au bout. Et il faut par exemple savoir que Shimon Peres, qui a présidé l'État d'Israël, a fait partie en 1941 d'un groupe de jeunes, de 47 jeunes pionniers qui ont résidé sur Massada. D'autre part, après la création de l'État d'Israël, en 1947, par le vote de l'ONU, puis le 15 mai 1948 officiellement, Massada est devenu un lieu effectivement symbolique de la volonté d'Israël de résister à tout prix. Les fouilles qui ont été menées dans les années 1960 par un colonel de l'armée israélienne, Yagael Yadin, à la fois nous a beaucoup renseigné sur ce qu'était Masada à l'époque antique, mais a insisté sur le fait que ce lieu avait toujours été un symbole de la résistance du peuple juif. Autre élément important, c'est que les soldats de l'armée israélienne de Tsahal montaient sur le sommet de Masada et prêtaient serment au drapeau, jurant que plus jamais Masada ne tombera, c'est-à-dire que jamais l'État d'Israël ne disparaîtra. Donc, vous l'avez compris, le lieu était devenu un lieu extrêmement fort de la mémoire historique israélienne. Cependant, Masada a été aussi remis en cause. D'abord, par des historiens israéliens. C'est le cas, par exemple, de Yeshofa Arkabi, qui a réfléchi dans un ouvrage sur les fondements historiques de l'État d'Israël. Et il faisait la remarque suivante, c'est que parmi ces fondements antiques, il y avait Masada qui se termine en suicide collectif et la grande révolte de Bar Korba en 132-135 qui se termine par une répression extraordinairement rude avec un homme, Bar Korba, qui ne voulait absolument jamais rien céder aux Romains. Donc, disait-il, peut-on fonder une nation contemporaine sur des désastres de l'Antiquité ? Ce qui fait qu'à partir des années 1990, eh bien, on a progressivement, c'est vrai, abandonné un peu la mémoire de Masada. Non pas qu'on l'ait oublié, mais par exemple, depuis 1992, les soldats de Tsahal ne montent plus au-dessus de la forteresse. Disons qu'aujourd'hui, vous pouvez visiter Masada, emprunter peut-être le téléphérique, c'est beaucoup moins pénible, mais vous verrez tout de même un lieu extraordinaire de l'Antiquité juive et romaine.